Bienvenue sur le podcast de la fraudologie. Je suis Denis Pénaud, spécialiste de la lutte contre la fraude, et je vous propose de découvrir ensemble toutes les solutions qui vous aideront à mieux vous protéger de la fraude. Nous partagerons l'expérience de personnes qui ont vécu une fraude et les points de vue des meilleurs spécialistes. L'objectif est simple: vous immuniser contre la fraude. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance de fraudologie. Pour vous immuniser de la fraude, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Fabien Pelletier qui vient nous parler de la tentative de fraude qu'il a vécue lorsqu'il était dirigeant du groupe Amarante, qui est une coopérative agricole. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Donc Fabien, est-ce que tu veux bien nous expliquer le contact un peu étrange que vous avez reçu a priori de l'extérieur ?
Oui. Alors il y avait effectivement donc c'est la fraude au président hein, telle qu'elle existe. Alors il se trouve que j'ai été sensibilisé à ça puisque j'étais à l'époque membre du CJD à Angers, donc du Centre des jeunes dirigeants, et on avait eu quelques éléments d'alerte, hein, on va dire, par des professionnels du secteur qui nous expliquaient. Alors la fraude au président, moi je vous parle de ça. Alors ça devait être, je sais plus encore une fois les dates en tête, mais 2014 ou 2015. La fraude au président était un sport national et c'était quelque chose qui était à peine connu quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on entendait parler.
Ouais, c'était encore assez récent et c'était pas encore.
Exactement. On était au démarrage.
On était très peu protégés et on était encore sur des flux qui étaient peut-être identifiables parce que ça venait beaucoup de l'étranger et les flux partaient directement vers l'étranger. Ce qui est plus vrai depuis parce que les fraudeurs ont effectivement trouvé, constaté que leurs opérations étaient déjouées plus facilement parce que les comptes vers lesquels les virements devaient se faire partait à l'étranger et maintenant il crée des comptes en France. Donc la technique s'est affinée petit à petit. On était plutôt au début de la pratique.
Exactement. Et aujourd'hui, il n'y a pas un dirigeant responsable qui peut vous dire qu'il n'a jamais entendu parler de la fraude au président. À l'époque, c'était encore malgré tout un peu le cas.
Très. Ouais, c'est ça. La sensibilisation n'avait pas encore fait le tour.
Non, exactement. Donc moi, j'avais cette chance d'avoir été sensibilisé à ça. Et donc le process est un process que maintenant vous connaissez, ça fait quelques années qu'on en entend parler. Donc un appel en quatrième vitesse qui est fait auprès d'une des comptables hein, et non pas de la DAF, où la personne connaissait le prénom de la comptable, une conversation téléphonique pas facile parce qu'on n'entendait pas bien, comme si moi j'étais en fait dans un endroit qui captait pas bien. Le fait que je n'étais pas présent à l'entreprise aussi, donc ça veut dire qu'ils étaient au courant que moi je n'étais pas à l'entreprise.
Et tu n'étais pas présent pendant une période.
Non, pas du tout. C'était,
flux normal de l'activité de l'entreprise.
Tout à fait. Et de mémoire.
C'était pas un salon.
Non, pas du tout. Et de mémoire, ça devait être pendant un conseil d'administration qui avait lieu en général à Tours. Et donc, l'entreprise était basée à Châteaubriant. Donc, effectivement, je partais en général pour une journée et demie, deux jours. Et donc pas là, donc difficilement joignable parce qu'en conseil d'administration, je leur avais dit à tout le monde, si vous me prévenez, c'est que l'entreprise brûle,
le feu, quoi.
ou alors vous me prévenez par mail. Et donc la personne en question dit à la comptable que moi je suis occupé à l'heure actuelle, mais on a une opération à faire très très vite. Il nous faut vis-à-vis des avocats et des notaires pouvoir débloquer des fonds en vitesse pour pouvoir ne pas louper une situation d'achat incroyable et que donc il faut débloquer rapidement 30 000 euros. Ce qui est pas une somme quand vous faites 35 millions entre 25 et 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, 30 000 euros.
C'est pas une alerte particulière dans la tête du comptable, mais on a un critère hyper classique de la fraude au président qui apparaît là, c'est l'urgence.
Exactement. Une pression assez assez forte. Vraiment un sentiment d'urgence qui est fait par le fait que la personne raccroche, qu'elle rappelle deux minutes après en disant on vient de faire le point avec les administrateurs, donc il sort un ou deux noms d'administrateurs. Ça c'est pas très difficile, vous allez sur société.com et vous les trouvez.
Oui, ils arrivent à trouver rapidement.
Et donc j'ai fait le point, il faut absolument Nalinader, enfin vous voyez le truc.
Ouais, c'est intéressant. Le fait que ça, c'est un critère qui peut être intéressant à retenir, c'est que s'il y a un premier appel et puis un deuxième appel très peu de temps après, c'est déjà des comportements qui sont identifiables.
Pas le temps de
Qui sont...
réfléchir, c'est-à-dire que là, vraisemblablement et réellement, la comptable était harcelée.
Ouais,
Elle a
c'est ça.
reçu, elle a dû recevoir 3-4 appels en l'espace de 7-8 minutes, quoi. C'est-à-dire en disant, bah, attendez,
Ouais, je comprends.
je raccroche parce que je suis en train de voir avec un tel ou un tel, avec nos conseils, ce qu'il faut faire, je vous rappelle tout de suite. Tac, ça
Ouais,
raccroche
ils
et
avaient un
ça rappelle
discours bien
après.
rodé.
Tout à fait. Alors ça,
Ok.
c'est symptomatique aussi. Moi, je ne l'ai vécu qu'une fois, mais c'est ce qu'on m'a raconté à chaque fois, c'est que le storytelling est très très bien foutu. Très très bien foutu.
Ouais. Ah oui, en général, ils sont assez doués, ouais.
Oui.
Malheureusement, mais oui.
Oui. Ils font ça bien.
Ouais. Donc là, la comptable, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Comment ça se déroule après cette première attaque, quoi, en fait, hein?
Alors, on était en open space dans les bureaux, donc la
D'accord.
comptable était avec deux autres de ses collègues et la DAF qui était dans le même bureau. Et
Donc là, tout
donc
le monde entend.
tout le monde entend. Et donc
D'accord.
la DAF, je lui avais fait part de ce que j'avais vu au CJD et le fait que voilà, il faut absolument que nous ayons une politique qui soit de vigilance, hein, vis-à-vis de tout ça.
Ouais. Oui,
Et
c'est pas de
donc
la paranoïa, c'est de la
non,
vigilance, on est
pas du
d'accord.
tout, c'était de la vigilance, donc on avait fait le nécessaire. Et là, la DAF a eu le bon réflexe de dire, mais on va attendre l'autre appel, puisqu'il s'attendait à avoir un autre appel.
Ouais, naturellement,
Et
ouais.
moi, j'avais mis en place une petite chose qui peut vous faire sourire, enfin, en tout cas, qui va te faire sourire, Denis, c'est
Ouais, je
que
pense que ça va servir à plein de monde, ça.
j'avais dit,
Ouais.
si jamais on est sujet à une fraude au président, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire une blague, et la réponse à la blague va pas être celle qui est la bonne, en fait.
Ouais.
Et donc j'avais donné une blague à mes équipes et je leur avais dit voilà la réponse à cette blague c'est ça. Alors ne me demandez plus la blague que c'était parce que je ne l'ai plus en tête. Enfin
Ouais,
c'était ça.
c'était ma question, forcément.
C'était ça. Enfin c'était du type quelle est la différence entre un pigeon il ne sait ni nager. Voilà,
Ouais,
qui
c'est
veut
ça,
absolument rien
d'accord.
dire. Et
Les fans
donc
de Coluche, je te reconnais.
ça doit être ça. Ouais, enfin c'était de cet acabit-là. Et donc la comptable finit par avoir un appel et puis elle dit oui mais Fabien en tout cas vous auriez pas une blague à me raconter? Et alors évidemment
Ouais,
l'autre
donc il
bah, est-ce que vous
parle
pensez que
avec
c'est bien le moment de raconter des blagues?
Ouais, très bien.
Si si ce serait bien quand même que vous me racontiez la blague. Et puis là le type évidemment s'agace au téléphone et puis la DAF reprend le téléphone et lui dit bah écoutez pour ce qui est de la fraude au président mon président a préparé les choses et il y a une blague absolument que l'on doit se dire en pareil cas si jamais il avait besoin d'un déblocage d'argent si vous ne connaissez pas la blague si vous n'êtes pas le président je vous souhaite une bonne
Ouais,
journée et ça
donc
s'est
là, elle
terminé comme ça.
désamorce directement le truc.
Oui, tout à fait.
Allez, super. Écoutez, voilà, je trouve c'est hyper porteur de sens et de conseils où on se rend compte que, enfin, dans les fraudes, d'une manière générale, dans un cas sur un, donc dans 100% des cas, il y a un être humain qui a soit été manipulé, soit a failli, soit a fait une erreur. Enfin, mais l'humain est hyper central et le fait de travailler sur de l'humain. Ça ne coûte rien en outillage, en quoi que ce soit,
Effectivement.
mais c'est du bon sens. Et là, en l'occurrence, d'avoir anticipé, c'est ça qui a sauvé 30 000 euros, en l'occurrence,
Oui.
dans ce cas-là, mais ça aurait pu en sauver 10, 15, 20 fois plus. Ça aurait été exactement pareil, quoi.
Alors, ce qui est intéressant,
Alors.
c'est que, à savoir, c'est que souvent, ils regardent effectivement les chiffres et ils font des choses qui sont en rapport avec la qualité et la quantité de chiffre d'affaires que génère l'entreprise. Ils auraient demandé 1 million, le problème était réglé, quoi. C'est-à-dire que personne n'aurait fait suite
Oui, c'était
à
trop
ça.
suspect, effectivement. Ils font des choses qui sont plausibles, quoi.
Oui, tout à fait.
Ouais, ça, c'est important. Il faut pas s'attendre, parce que on peut imaginer avoir le réflexe de travailler sur de l'outil et l'outil, il va falloir lui donner des paramètres et notamment sur des flux dits anormaux.
Oui.
Et là, en l'occurrence, on se rend compte que ce type de parade, elle est absolument inopérante dans un cas comme ça, parce que 30 000 euros, si vous faites des contrôles sur tous les 30 000 euros dans la boîte, ça veut dire que vous multipliez par deux peut-être le temps de saisie ou le temps de traitement.
C'était même plus que ça, puisque oui, on avait des factures qui étaient assez importantes. Donc c'est bien foutu. Moi, je suis assez admiratif hein, malgré tout. On est bien dans de la fraude, hein, on est d'accord. Mais on n'est pas sur des branquignoles. Hein. C'est pas les pieds nickelés qui font ça juste pour passer le temps. Ce sont des gens qui sont organisés, qui ont certainement monté des business models, et qui ont fait des case stories. Enfin, c'est très pro. Hein. C'est très pro. C'est d'ailleurs pour ça que c'est dangereux.
Et oui, absolument. Alors, il y a plusieurs réflexions qui me viennent là. La première, c'est tu disais tout à l'heure que la comptable, la personne qui l'a appelée, la connaissait par son prénom.
Oui.
Alors que le fraudeur connaisse le nom du président, le nom des administrateurs. On voit assez facilement aujourd'hui comment trouver ce type d'information là.
Oui.
Par contre, le prénom de la comptable, à ton avis, comment le fraudeur aurait pu, alors c'est forcément des hypothèses là dans lesquelles mais comment il aurait pu trouver cette information là?
Alors moi, on faisait une petite newsletter tous les mois à destination des adhérents. Donc les adhérents qui étaient au nombre de un peu plus d'une centaine, hein, ils étaient 110, quelque chose comme ça. Et tous les mois, on faisait la présentation d'un collaborateur, puisque nos adhérents étaient répartis sur l'ensemble du territoire et ne connaissaient pas tout le temps, physiquement, j'entends, hein, en photo, tout ça, ils ne les avaient jamais vus. Donc pour donner un peu d'humain dans toute cette histoire, on faisait la présentation d'un des collaborateurs par mois. Et donc on avait fait sur un mois la présentation de cette comptable avec ses coordonnées, son numéro de téléphone, en disant si vous avez un problème sur une facturation ou quoi que ce soit, appelez-la en direct, ne passez pas par le standard, enfin voilà, ce genre de choses. Moi je subodore que c'est passé comme ça. Parce que pour qu'ils connaissent alors mon nom, mon prénom, d'accord, il se trouve que je rédigeais l'édito de cette newsletter tous les mois, que j'ai un style littéraire qui est assez particulier, donc ils ont repris des expressions qui étaient les miennes. J'ai réfléchi après tout ça et je suppose que c'est, je sais pas comment ils ont pu choper ça, mais ils ont chopé les newsletters et donc ils se sont appropriés et le vocabulaire et le personnel.
Ouais, alors ça c'est hyper intéressant. Alors ça veut pas dire qu'il faut arrêter les newsletters, arrêter de communiquer avec ses clients, etc. Pas du tout, hein. Mais c'est intéressant a posteriori d'arriver à identifier quels sont les fils qu'ont déroulé finalement les fraudeurs.
Tout à fait.
Et en l'occurrence, je pense que c'est assez probable. Le mail aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez fragile.
C'est hyper fragile. Enfin, c'est vraiment très fragile. La preuve, vous faites rapidement et souvent hacker. Enfin, moi, je reçois, alors que j'ai des antivirus et tout ce qu'il faut, on reçoit des gens qui vous écrivent à partir de votre boîte mail.
Eh oui, c'est ça. On reçoit des mails de soi-même.
Oui, tout à fait, avec des histoires de vidéos qu'on va transmettre à tout le monde si vous ne transmettez pas du Bitcoin ou des choses comme ça. on a ces choses-là. Donc, forcément, il y a un moment donné, je suppose que ces éléments-là rentrent dans des mains qui ne sont pas tout à fait innocentes.
Ouais, c'est intéressant d'être vigilant là-dessus et de voir quelles. Donc, on pourra pas empêcher la diffusion d'informations.
Jamais. Ouais.
Ça, c'est voilà, parce qu'il y a la vie de l'entreprise et de son business, etc. Il faut juste être vigilant sur ce qu'on met et du coup trouver d'autres parades. Parce que moi, je lis souvent, pour éviter la fraude au président, il faut limiter les informations qu'on diffuse. Non. Ça paraît juste pas possible parce qu'on a besoin de faire du marketing, parce qu'on a besoin de se faire connaître, parce qu'on a besoin de communiquer.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, on est le 5 mai 2020, on est en plein confinement Covid-19. Dieu sait que la communication, et en particulier digitale, c'est quelque chose qui est indispensable. Donc se dire je vais limiter les informations, ça me paraît juste pas du tout crédible.
Ouais, c'est inenvisageable. Ouais. Donc il faut traiter le problème différemment et ne pas rentrer dans cette parano totale de enfin ça vous coupe la vie de l'entreprise, donc c'est juste pas possible.
Donc c'est pas une bonne piste. Par contre, en parlant de communication, ce que je retiens, c'est que tu avais mis quelque chose en place avec ta DAF. Alors, est-ce que le sujet de la blague, c'est ça qui est hyper intéressant dans ton expérience, c'est que ce petit truc-là, tout bête, qui a permis de déjouer cette fraude, c'est une blague que tu avais anticipée et que tu avais diffusée à uniquement ta DAF ou les comptables étaient au courant également de cette idée-là?
Alors c'était la DAF qui était au courant parce qu'il faut limiter là pour le coup la diffusion de mots de passe hein, en l'occurrence parce que
Oui.
c'était quand même ça et j'avais la DAF et le responsable informatique qui étaient au courant donc ça c'était les deux et donc la chose qui avait été dite de la part de la DAF à ses équipes comptables c'était de dire si jamais vous avez une quelconque comment on va dire sa suspicion hein, de
Ouais.
quelqu'un qui est en train de vous arnaquer. Surtout, n'hésitez pas, personne ne vous engueulera d'avoir fait ça, bien au contraire. Et alors moi, j'avais réuni l'ensemble des équipes en leur disant, voilà ce qui se passe en termes de fraude aujourd'hui, ce qu'on appelle la fraude au président. Jamais, jamais, je ne vous engueulerai pour avoir vérifié 3 fois la véracité d'un virement. On
Ouais, la
sait. Ah oui,
communication
transparence
et
totale.
ça, exactement. Ouais, ça, c'est indispensable. Alors, c'est pas toujours possible dans toutes les organisations parce qu'il faut avoir cette proximité-là avec les équipes. Ça dépend de la taille, ça dépend de l'organisation, ça dépend de la localisation des gens aussi.
Oui.
Mais c'est effectivement la transparence et la communication sont hyper importantes. C'est hyper rassurant pour les équipes, que ce soit la DAF, l'informaticien ou les comptables, hein.
Oui. Ouais, alors moi je ne sais travailler que comme ça, c'est-à-dire petite équipe ou grande équipe. Hein, récemment j'ai dirigé une entreprise qui avait plus de 150 personnes. Je
Ouais.
me souviens avoir fait, alors que je prenais mes fonctions, peut-être 3 4 mois après, lors d'une réunion avec l'ensemble du personnel, j'ai fait cette communication à la fraude au président en disant voilà ce qui peut se passer. Ça peut vous toucher, alors peut-être pas tous, parce que les positions dans l'entreprise sont différentes.
Ouais,
Mais
totalement,
sachez que
mais
ça
pas tous.
existe et que ces
Ouais.
gens-là sont sans scrupules. Jamais, jamais, je ne vous engueulerai ou je ne serai désagréable ou je ne vous, enfin tout ce que vous voyez.
Ouais.
Si jamais vous essayez de checker, double checker, triple checker le fait
Ouais,
de faire
voilà.
un
C'est
virement.
hyper important de
Oui.
pas mettre enfin, sous couvert d'une productivité ou d'un productivisme excessif. Il faut les rassurer que prendre le temps, c'est une vertu et en particulier face à ce genre de menaces.
Tout à fait.
Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ça peut être hyper déstabilisant hein, pour les gens qui subissent cette fraude, même si la fraude n'est pas
C'est
avérée,
pas une
c'est-à-dire qu'on
question, c'est pas
part
une
pas
histoire de
par.
montant en fait, hein, c'est une histoire de. C'est comme un cambriolage,
Ouais,
hein, il suffit que quelqu'un fracasse
exactement.
votre porte, c'est même s'il n'a rien volé à l'intérieur,
Ouais.
ça reste un sujet, et c'est d'autant plus
On dort mal
vrai
après, ouais.
que en fait on avait subi une arnaque. Quelques mois avant, une
Ah.
arnaque assez basique. Alors là, pour le coup, j'invite tous les chefs d'entreprise alors ça, à regarder ça de très près. Nous avions changé le nom de l'entreprise et donc nous avions
Ah oui.
déposé le nom à l'INPI pour ce changement de nom. Et on reçoit dans les 15 jours qui suivent un papier en tête bleu, blanc, rouge, très bien foutu d'ailleurs. Comme quoi il fallait que nous payions, je sais plus, 250 euros, 300 balles
Ouais,
pour le
donc
changement de nom. Bon.
rien que de très plausible dans
Exactement.
ce genre de démarche où on se dit oui, il va y avoir forcément y avoir des petits frais à côté qui
Exactement.
vont arriver quoi.
Et donc cette fameuse comptable, on va dire que les gens lui en voulaient, donc elle regarde cette facture et elle me la glisse dans le parapheur à signer avec la liste des factures du jour, bon voilà. Et
Ouais.
puis moi je regardais les factures bien évidemment, mais enfin les montants de 250 euros,
Ouais, celle-ci, elle passait vite,
je fais
quoi.
confiance, voilà. Et donc c'était bien mis par rapport au dépôt que vous avez fait à l'INPI avec le numéro de dépôt, tout ça. Donc moi je signe.
Et c'était le bon numéro de dépôt qui
Oui,
était
oui, oui.
mentionné.
Et donc je
Ouais.
signe. Et puis peut-être une semaine, 15 jours après. À nouveau un montant, mais là 450 ou 500 euros, avec
Ah oui.
un autre en tête. Et là, c'est la comptable qui m'alerte et qui me fait, mais ça coûte si cher que ça, le changement de nom à l'INPI? Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je regarde, et alors là, tout de suite, on va sur société.com, on regarde la société en question, et on voit tout de suite que c'est une arnaque. Donc, il a fallu que j'aille à la gendarmerie pour porter plainte pour le premier, pour éviter que le paiement soit fait.
Pour essayer de récupérer. Eh oui.
Et voilà. Et là, en l'occurrence, je suis en train également de créer une autre structure à titre perso. Et rebelote, j'ai vu que les mêmes causes faisaient donner les mêmes
provoquer les mêmes effets.
Et donc, on a à nouveau deux ou trois feuilles qui vous arrivent. De gens qui vous disent pour l'inscription c'est tant et voilà. Donc ça c'est des coûts de 250-300 euros, mais enfin s'ils en font une vingtaine dans la journée, c'est un bon business, hein.
Oui, c'est ça, c'est un bon business quand on sait qu'il y a quelques dizaines voire centaines de milliers d'entreprises qui peuvent se créer chaque année. Je pense que à 250 euros l'opération,
ça commence à être sympa. Ouais. C'est un bon business model.
C'est ça. Ouais, ça c'est intéressant aussi. Donc deux pistes effectivement d'alerte, mais celle-ci qui peut paraître complètement anodine parce que les montants sont dérisoires entre guillemets.
Oui, enfin 250 euros quand vous faites une entreprise ou quoi que ce soit, quoi qu'il arrive, c'est dérisoire. Hein. On est vraiment dans l'épaisseur du trait.
Mais n'empêche que c'est 250 euros qui seront mieux dans la trésorerie.
Ah bah oui, tout à fait.
Pour acheter du papier. Exactement. Que pour payer une facture, une fausse facture.
C'est du vol, hein. C'est du vol.
Exactement. Donc c'est deux pistes hyper intéressantes. Alors merci hein, pour cette deuxième piste partagée. C'est je pense vraiment l'enseignement de cette expérience, c'est la communication est hyper centrale avec les bonnes personnes parce que voilà comme tu disais les comptables avaient pas forcément besoin d'avoir l'information exacte de la blague.
Oui.
Parce que elles n'avaient pas les codes pour réaliser les virements elles-mêmes.
Non.
Donc c'est bien ça, hein, c'est les personnes qui doivent réaliser les opérations, qui doivent avoir cette protection, cette dernière barrière, quoi. Hein, donc la blague ou le subterfuge qu'on essaye de mettre en place pour identifier que c'est bien une fraude.
Tout à fait.
Donc la communication et puis désamorcer le truc et dire aux gens, voilà, prenez plus de temps qu'il n'en faut. Il vaut mieux que d'aller trop vite, y compris dans des périodes qui sont des périodes de fragilité, parce que dans la fraude au président, ils ont réussi à identifier que toi, Fabien, t'étais pas là, t'étais en conseil d'administration.
Oui.
Donc, il y a une forme de fragilité. Mais ça peut être pendant les vacances, ça peut être à l'occasion d'un salon, si vous avez une activité qui vous amène à aller régulièrement dans des salons où vous pourriez ne pas être joignable. C'est dès qu'on a des périodes exceptionnelles comme ça, ça nécessite de la vigilance et il faut surtout pas essayer d'aller trop vite pour se débarrasser en fait.
C'est d'autant plus vrai dans cette période du confinement et du coronavirus où les besoins effectivement en trésor peuvent être importants, qu'on peut très très bien dire oulala, il y a une opportunité incroyable parce que j'ai un de nos concurrents qui va pas bien, il faut absolument que je le rachète ceci cela et il me faut me virer des fonds rapidement.
Ouais.
Enfin voilà, dans ces périodes un peu troublées, forcément ils vont s'engouffrer dans la bouche, dans la je vais y arriver, ils vont s'engouffrer dans la brèche pour pouvoir faire ça.
Ouais, donc c'est voilà une belle expérience qui heureusement ne s'est pas soldée par une perte de 30 000 euros, mais c'est une piste qui me paraît hyper intéressante, qui coûte rien.
Non, effectivement.
Qui est essentiellement sur l'humain et qui peut être une super défense, une super parade pour s'immuniser de ce type d'attaque.
Tout à fait.
Mais écoutez, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Fabien pour ton témoignage et tes deux pistes là hyper intéressantes. Et donc, je vous souhaite une excellente journée ou une nuit, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance de fraudologie. Merci beaucoup Fabien.
Au revoir, merci.
Merci d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. Pour faire connaître la fraudologie et participer à notre immunisation collective de la fraude, merci de partager cet épisode à vos amis et à vos collègues, de lui donner une note 5 étoiles et de me laisser vos commentaires pour faire progresser ce podcast ou pourquoi pas me proposer des sujets à aborder dans une prochaine séance. Enfin, si vous voulez me contacter en direct, n'hésitez surtout pas, je suis présent sur LinkedIn ou sur le site fraudologie.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance de fraudologie.